Et bonjour Karima.
Bonjour Antoine.
Alors, au programme de cette revue de presse, l'Écosse Cévennes qui font désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, des journalistes épinglés pour leur lien avec les Ben Ali, l'arrivée du tram 3 inaugurée en grande pompe et enfin, comme tous les jours, un petit point sur la présidentielle. Et on commence avec Midi Libre et l'Écosse Cévennes qui entre au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et oui, après deux échecs successifs en 2006 et 2009, la troisième a été la bonne. C'est la bonne nouvelle du jour, l'Écosse Cévennes font partie du patrimoine mondial de l'humanité. Selon Midi Libre, la bonne nouvelle est tombée hier vers midi. Ému, Jean Puech, l'ancien président du Conseil général de l'Aveyron, raconte. C'est un succès magnifique, notre dossier a été salué par les représentants de la Russie, de la Chine ou encore de la Barbade. Nous sommes quelques personnes à y travailler depuis près de 15 ans et dans la dernière ligne droite, nous avons été rejoints par Ramayad qui n'a pas manqué une seule minute des travaux de la session. Selon Midi Libre, ce qui est entré au patrimoine mondial de l'humanité, ce ne sont pas les étendues de cailloux ou les plateaux pelés d'Écosse, mais la culture pastorale qui, je cite, « façonne les paysages depuis des millénaires ». Ramayad, interrogé par Midi Libre, explique qu'à travers l'agro-pastoralisme, c'est une histoire millénaire construite par des générations de bergers, d'éleveurs, de producteurs, et c'est ce qui fait la magie de ces territoires. Point important, ce sont les anti-gaz de schiste qui se félicitent également de cette victoire. L'inscription au patrimoine mondial est en effet un sacré garde-fou. L'Écosse Cévennes font partie des 25 nouveaux sites inscrits par le comité du patrimoine mondial. La liste compte donc désormais 936 sites. Le comité a par ailleurs décidé de différer l'œuvre de Le Corbusier, l'artiste et architecte franco-suisse.
Et on poursuit avec Rue 89 qui nous annonce, avec le canard enchaîné, sort une nouvelle affaire du côté du clan Ben Ali.
Et oui, c'est le canard enchaîné qui sort cette affaire et Rue 89 le reprend dans un article. Un article du canard donc qui tend à démontrer qu'un discret réseau d'influence aurait été monté par la boîte de conseil d'Anmo, Image 7, un réseau en faveur de la dictature de Ben Ali, composé notamment de patrons de presse tout acquis à sa cause. La société de communication est élue contractuellement à l'Agence tunisienne de communication extérieure, la TCE, et rémunérée plus de 200 000 euros par an. Le canard a mis la main sur des documents illustrant ses mœurs joyeuses. Selon le canard, la mission d'Anmo était entre autres de promouvoir l'image du pays en décrochant des reportages et interviews pro-Tunisie, je cite. En décembre 2003, Image 7 a expédié à Tunis Michel Chiffresse, alors directeur du quotidien Le Figaro. Quelques jours plus tard, annoncé en une du journal, une interview de Ben Ali accablée de questions pièges sur la bonne situation économique et la place remarquable de la femme en Tunisie. Selon l'hebdomadaire, Image 7 organisait les vacances de certains journalistes en Tunisie. Du 20 mai au 24 mai 2009, Étienne Moujotte, Le Figaro, Nicolas de Taverneau, M6, Dominique Montvallon, Le Parisien et Alain Veil, patron d'RMC BFM TV, seraient partis à Tunis avec leurs épouses. Fin 2004, Image 7 aide Françoise Laborde, alors présentatrice du JT de France 2, à organiser un réveillon à Zarzis avec son compagnon et ses deux enfants, devenus depuis membres du CSA. Elle reviendra en 2010 en faveur des vacances et bénéficiera d'une voiture avec chauffeur. Joint par Rue 89, Dominique Montvallon réagit. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je n'ai pas vu le canard enchaîné. Je connais la Tunisie depuis 25 ans, j'aime la Tunisie et les Tunisiens depuis toujours. J'ai dû y aller 35 fois. La question de Rue 89, toujours avec votre agent, réponse. Mais oui, bien sûr, affaire à suivre.
Et on poursuit avec Direct Montpellier Plus qui dit qu'il en a marre du tram, mais qui consacre ça une et une plein de pages.
Et oui, avec le titre « On saura qu'il est là !» point d'exclamation, le Montpellier Plus nous explique qu'il aurait fallu vivre, je cite, « dans une grotte afghane pour ne pas s'apercevoir que le tramway de la ligne 3 est enfin arrivé à Montpellier ». Le quotidien nous offre ainsi un récit du show à l'américaine, je cite, « avec musique à la Jean-Michel Jarre, feu d'artifice, jet d'eau, bah ouais, c'est le tram qui va à la mer, discours de politique et même un gâteau tramway ». Jean-Pierre Moore, le président de la région, a tout de même rappelé que le tramway rapproche le citoyen de l'emploi et Christian Lacroix a lui eu une pensée. C'est pour Georges Fraîche. Quelque part derrière les nuages, il y a l'ombre de Georges Fraîche et d'ajouter « J'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai jamais vu une ville qui innove autant dans tout ce qu'elle fait. » Le tramway va désormais entrer en phase d'essai, une phase de 1500 km qui se fera de nuit sur la ligne 1. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les travaux sont finis. Robert Supra, le président de la TAM, l'annonce dans le quotidien. On dégage toutes les rues à partir du 1er juillet, comme si c'était fini. Il ne nous restera que des petits morceaux à faire. L'inauguration se fera dans la première quinzaine d'avril 2012. Prochaine inauguration, le T4 qui devrait arriver en septembre. Une autre fiesta en perspective.
Et on passe à notre point quotidien sur la présidentielle avec 20 minutes et le clan Hollande tourné vers 2012.
Et oui, selon 20 minutes, la méthode Hollande, c'est de faire oublier les primaires. La présidentielle, ce n'est pas la préparation d'un congrès socialiste, c'est une relation qui s'établit entre un homme, une femme et un pays. Le premier critère, c'est qui peut gagner 2012, a expliqué François Hollande hier sur RMC BFM TV. En tête dans les sondages depuis la disparition du paysage politique de DSK, François Hollande et son entourage ont décidé d'exploiter cet avantage en minimisant l'importance des primaires. Une façon de montrer aux futurs votants des primaires que le vote Hollande devrait s'imposer comme une évidence. La tactique, c'est donc d'occuper le terrain sans commenter la campagne des autres prétendants.